Nous sommes le 16 juin et c'est le dernier cours sur les 12 portraits philosophiques du Christ. Et je vais présenter donc Théard de Chardin, un jésuite. On termine avec un jésuite. On avait commencé avec Pascal, un anti-jésuite. On termine avec un jésuite. Vous avez la feuille de route. Où est-elle, ma feuille de route? Ah, voilà. Eh bien donc, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont là. Bonjour à ceux qui sont dans l'auditoire. Là. Alors, Théard de Chardin, 1881-1955. Il a vécu 74 ans, c'est un jésuite français. Darwin est décédé en 1882. Et Théard est né en 1881. Donc, voilà, ça se touche. Vous voyez que sur votre feuille de route, j'ai indiqué d'abord une biographie qui est assez passionnante, si on veut. Ses œuvres, le Christ évoluteur, le Verbe incarné et le Jésus historique, qui sont tous les deux à la fois alpha et oméga de la création-évolution. Alors, une question sur la méthode de Théard de Chardin. Est-ce qu'elle est sérieuse? On s'est posé la question, bien sûr. Est-ce qu'il n'est pas dans l'extrapolation complète en passant des pierres à la mystique, hein? Soi-disant, sans transition. En fait, il y a des centaines de transitions, hein, chez Théard. Voilà. Alors, le Jésus évangélique et le Christ cosmique. C'est un peu la reprise. L'optimisme de Théard. On dit souvent que Théard est un optimiste. Eh bien, je ne sais pas si vous avez eu le temps, puisque la feuille est arrivée assez tard, de lire les textes, mais le second n'est pas du tout naïf, hein, sur le grand labeur de l'évolution. Et enfin, une évaluation. Et puisque nous avons eu le cours sur Blondel et sur Weil, est-ce que Théard n'est pas un peu entre les deux, d'une certaine manière? Et je signale le livre de Delubac, La pensée religieuse du Père Théard de Chardin. Je vois vraiment que la lumière n'est pas très bonne, mais enfin, je m'excuse pour ceux qui sont là. La famille. Théard, donc, est le quatrième de 11 enfants. Vous vous souvenez que Kierkegaard, ils étaient 7 enfants, et 5 de ces 7 enfants meurent avant l'âge de 33 ans. Alors on se dit, bon ben ça c'est le dramatisme de Kierkegaard. Mais chez les Théard, il y a eu pas mal de décès aussi dans les frères et sœurs, assez jeunes. Son frère aîné, Albéric, meurt en 1902. Sa sœur aînée en 1904. Une sœur plus jeune, qui est petite sœur des pauvres missionnaires en Chine, il meurt en 1911. En 1936, c'est l'année de la mort de sa mère et de sa sœur Marguerite, après une longue maladie. Donc Théard connaît, comme Kierkegaard, eh bien, voilà, le drame, hein, malgré tout dans sa vie, un drame familial. Est-ce que c'est le Théard optimiste qui ne voit pas ce qu'est la souffrance et qui voit l'évolution de manière comme ça, un peu naïve? Dès son enfance, tout petit, Pierre est passionné par les pierres. Et il trouve qu'elles ont une consistance. Ça, c'est un grand mot pour lui, la consistance de l'être. Il y a tellement de choses qui n'ont pas de consistance. Eh bien, au moins les pierres, on ramasse une pierre là sur le chemin, et là, 6 millions d'années, 60 millions d'années, ou plus, ça dépend. Et il apprend à les reconnaître. Et pour lui, une pierre dans laquelle est gravé quelque chose, surtout s'il y a un fossile dans ces pierres, eh bien, voilà, c'est quelque chose de passionnant. Dès qu'il a 10 ans, 12 ans, il poursuit cette passion à tous les stades de sa formation et de sa vie, bien sûr. Au collège des jésuites de Notre-Dame de Montgré, près de Villefranche-sur-Saône, il entre en 1899, donc à l'âge de 18 ans. Il y entre... Mais les jésuites sont expulsés de France en 1901. Alors ce n'est pas la première fois que les jésuites sont expulsés, ni de France, ni d'autres pays. Si vous voulez faire une fois une recherche sur Internet, expulsion des jésuites, vous verrez qu'ils ont été expulsés de beaucoup de pays et de France au moins 5 fois. Hein? Alors après, ils reviennent, etc. Enfin, ce n'est pas toujours des expulsions radicales, ce sont des dispersions des communautés, des interdictions d'enseigner, etc. Donc dans ce grand mouvement de laïcisation de l'enseignement sous la Troisième République, eh bien les jésuites sont chassés. Hein? Les jésuites français sont chassés de leur pays, en tout cas au niveau des maisons de formation, des collèges, etc. Donc, il était entré au noviciat en 1999 à Aix-en-Provence. Eh bien, il doit aller faire son juvénat sur l'île anglo-normande de Jersey. Car donc, les jésuites ne peuvent plus avoir de maison de formation en France. Il fait sa régence, c'est donc cette période où les jésuites commencent, avant d'être prêtres et avant d'avoir terminé leur formation, à enseigner dans un collège. Eh bien, il va enseigner en Égypte. De 1905 à 1908, il enseigne en Égypte. Qu'enseigne-t-il? Eh bien, la physique, la chimie, qu'il connaît parce qu'il a fait des bonnes études secondaires, parce que de manière autodidacte, il s'est très bien formé. Et donc, il est capable d'enseigner la physique, la chimie, à l'âge de 24 ans. En Égypte, à des musulmans, à des chrétiens. Et bien sûr, les déserts ne sont pas loin, donc il va les parcourir avec des amis, aller chercher des pierres dans tous les coins et récolter des pierres. En 1911, je vous l'ai déjà dit, mort de sa sœur Françoise en Chine. Donc c'était une sœur plus jeune qui est morte de la variole en servant les pauvres à Shanghai, je crois, enfin quelque part en Chine. Et c'est aussi l'année de son ordination sacerdotale à Hastings, en Angleterre. Puisque on ne peut pas être ordonné en France, il est ordonné à Hastings. Là, dans cette ambiance anglophone, eh bien, il lit L'origine des espèces de Darwin. Ça l'intéresse beaucoup. Mais il lit aussi, je ne sais pas si c'était à cette époque-ci ou un peu plus tard, L'évolution créatrice de Bergson. Je vous ai dit qu'en 1907, donc Bergson avait écrit L'évolution créatrice, et que pour lui, Bergson, eh bien, il y avait déjà une interprétation spiritualiste de l'évolution. Ça veut dire qu'avec Darwin et bon, un peu les athées de l'époque, hein, l'évolution, ça veut dire quoi? Il n'y a que la matière, l'esprit, bon, est-ce que ça existe? Mais enfin, c'est un espèce d'épiphénomène de la matière. En tout cas, bien sûr, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de création, tout ça se fait un peu par hasard. Et donc, l'évolution semblait être une théorie eh bien, préférentielle hein, des athées, des agnostiques. Avec Bergson, on a déjà une réflexion sur l'évolution. Et il dit, mais pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a une évolution, il est pour l'évolution, mais ça n'implique pas le matérialisme. Et de manière philosophique très fine, il montre clairement que accepter l'évolution, ce n'est pas accepter le matérialisme pur et simple. Alors il indique déjà, parce que bon, il est juif, il n'est pas catholique, enfin il a quand même une idée au moins philosophique de Dieu, il dit ceci, l'évolution et la création, c'est les deux faces d'une même médaille. Vous prenez du point de vue de Dieu, Dieu crée, mais du point de vue de l'homme, cette création, c'est l'évolution. Nous voyons la création en route, dans l'évolution. L'évolution, ce n'est pas un acte instantané, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, bien sûr, mais c'est ça la création. Alors, du point de vue de Dieu, on peut dire Dieu crée, comme s'il créait en un instant, mais du point de vue de l'homme, il crée dans le temps. Donc voilà, il met ensemble ces deux notions, ce n'est pas donc incompatible et ce n'est pas matérialiste. En 1912, eh bien, il a la grande joie d'être intégré à l'équipe du laboratoire du musée de paléontologie à Paris, 1912. Donc il est tout jeune, il a 31 ans, et là il rencontre Marcelin Boule, qui est le ponte de la paléontologie à cette époque, qui sera d'ailleurs son maître de thèse ensuite, après la guerre. Et Marcelin Boule dira par exemple de lui, nous trouvons chez Pierre Théa de Chardin l'association aussi précieuse que rare du goût de la fine analyse à celui de la puissante synthèse liée à une grande indépendance d'esprit. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà observer, mais il y a beaucoup de personnes qui sont soit analytiques, hein, on est tout le temps dans les détails et puis on ne voit pas bien comment faire la synthèse, soit on a des intuitions gigantesques, mais on laisse les détails de côté. La vraie intelligence, par exemple celle de Hegel, c'est d'avoir une très grande puissance d'analyse et une très grande capacité de synthèse ensuite, mais sans laisser tomber les détails de l'analyse. Eh bien, Marcelin Boule observe cela chez le jeune Pierre Théard de Chardin, lié à une grande indépendance d'esprit. Voilà, c'est ce qui en fera justement un chercheur novateur. Marcelin Boule, par parenthèse, est un athée. Et il travaille avec des abbés, parce qu'il y avait notamment l'abbé Breuil, qui était aussi un paléontologue très intéressé par toutes ces questions. Et donc, il se lie un peu d'amitié avec cet abbé Breuil. Il y a d'autres abbés hein, qui s'intéressent à cela. Mais voilà que la guerre éclate, 1914. Les jésuites sont des citoyens ordinaires, donc ils sont mobilisés. Et ils doivent aller faire la guerre. Alors il sera mobilisé pendant 4 ans comme brancardier dans un régiment de tirailleurs marocains. L'Égypte, on a les tirailleurs marocains, il est avec des Marocains qui doivent défendre la France. Hein. Et il veut rester brancardier, donc il ne porte pas les armes, mais il va au front. Il ne veut pas être aumônier, même s'il est prêtre, il a été ordonné en 1911, parce que s'il est aumônier, il est officier, et donc il n'ira pas au front. Mais il veut aller avec les hommes au front. Et il se rend compte, évidemment, que chaque fois qu'il y va, eh bien, il y a un ou deux ou plus de ses compagnons qui ont disparu, et voilà, et chaque fois qu'il y va, ben, il se dit, ben, cette fois-ci, ce sera peut-être moi. Donc, il connaît le danger. Il écrit là, pendant ces 4 années de guerre, il écrit une correspondance, notamment avec sa cousine. C'est là, à ce moment-là aussi, qu'il écrit ce poème, cet écrit, enfin, l'éternel féminin. Il est démobilisé, il fait une retraite de démobilisation, hein. Et en 1922, il passe sa thèse sur les mammifères de l'Éocène inférieur français. Alors l'Éocène, je vous ai indiqué là, c'est une période de 20 millions d'années, entre moins 65 millions et moins 45 millions. Donc ça fait quand même déjà un paquet d'années. Hein. Eh bien, il étudie les mammifères de toute cette période et il observe bon, des transformations, des évolutions. Première mission en Chine en 1923, la Chine qu'il ne connaissait pas, mais sa sœur y était évidemment. Première mission en Chine grâce au paléontologue chinois Wong, je ne sais pas quoi, hein, qui l'a rencontré à Bruxelles, figurez-vous, à un congrès de paléontologie. Et ce Wong, eh bien, c'est lié à lui, il le rencontre et alors il l'invite à faire une petite mission en Chine. Il y va. Malheur, après les mammifères, il s'occupe d'une espèce spéciale de mammifères qui s'appelle l'Homo sapiens. Alors là, ça devient un peu dangereux. Bon, les mammifères, si les mammifères évoluent, ben, tant mieux pour eux. Hein, mais si l'Homo sapiens commence à évoluer, ça c'est un peu plus critique. Hein, dans la vision de l'Église d'ailleurs, de l'époque. Donc voilà, il donne des cours à l'Institut catholique de Paris. Il a une chaire de géologie. Hein. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'avant sa thèse, donc, il avait fait le master, comme on dirait, hein, en géologie, en botanique et en zoologie. Donc il était bien préparé pour voir comment un fossile différait d'un autre. Hein. Et donc, en 1925, il commence à donner des cours avec un certain enthousiasme pour l'évolutionnisme, qui n'est pas en odeur de sainteté, donc à Rome. Il a le malheur d'écrire quelque chose sur le péché originel. Ce n'est pas un texte officiel, mais c'est un texte comme ça qu'il a écrit, qu'il a donné à l'un ou l'autre, et puis qui finalement arrive à Rome. Et le péché originel, donc il ne croit pas à Adam et Ève, mais au paradis terrestre. Ça ne va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout à l'époque. Donc il faut tenir le monogénisme et le premier couple, etc. Donc il y a déjà des exégètes qui ont des difficultés avec cela, mais lui c'est à un niveau, donc je dirais, scientifique, hein, qu'il a des difficultés pour cela. Et comme vous le verrez sans doute à travers les textes qu'on va lire, il croit au péché originel. Mais il ne croit pas à la représentation de Genèse 2:3 à propos du péché originel. Mais il tient très fort le péché originel. il voit qu'il y a une cassure, une brisure dans l'humanité et qu'elle a des conséquences vraiment irréductibles. Donc, en 1925, eh bien, les supérieurs lui font savoir, et le doyen de la faculté de l'Institut catholique de Paris lui font savoir qu'il doit quitter sa chaire de géologie, qu'il vient de prendre. Il est professeur depuis 3 ans. Il doit la quitter parce qu'il a des idées bizarres. Sur 3 choses, eh bien, je l'ai indiqué là, hein, ces 3 reproches qu'on lui fait. Il est évolutionniste. À l'époque, c'est pas... On est encore très fixiste dans l'Église. Hein. Il a des idées bizarres sur le péché originel. Et enfin, il est panthéiste. Il est panthéiste parce qu'il voit l'énergie de Dieu partout, dans les pierres, tout ça, dans les végétaux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du panthéisme. Donc, ces 3 reproches, eh bien, lui font qu'on le retire de cette chair. Alors ça, il est dans un grand désarroi à ce moment-là. Dans un grand désarroi, et on peut lire dans un article de Ravier, hein, combien dans son journal, eh bien, il est très ébranlé. Il se demande laquelle de ses 2 vocations, parce qu'il en a 2, hein, qui sont également fortes, laquelle il doit abandonner, ou est-ce qu'il doit sacrifier l'une à l'autre, laquelle, pourquoi. Et il a vraiment des phrases émouvantes en disant à Auguste Valencin, un de ses amis, « Mon bon ami, aide-moi, hein, aide-moi un peu, je ne sais pas ce que je dois faire, hein, je suis dans le désarroi. » Mais voilà, ça lui donne l'occasion, ben, le Wonk de Pékin lui dit ben, « Venez ici, hein, si on ne vous veut pas à Paris, nous on vous veut bien à Pékin. » Et grâce à ce Wonk et à d'autres, eh bien il va en Chine. Et il restera en Chine eh bien, pendant 20 ans. Pas de manière continue, hein. Il y aura de temps en temps une année à Paris, puis un voyage à Java ou à New York ou à Philadelphie, etc. Il voyage beaucoup, et souvenez-vous qu'à cette époque on voyage en bateau. Les avions ne sont pas encore à la mode, même si on vole déjà un peu, mais bon, c'est en bateau. Et donc en bateau, ça lui donne le temps de réfléchir. Ça lui donne le temps de rencontrer des gens de toutes sortes, même presque des pirates. Hein, enfin, il rencontre un peu des gens de toutes sortes, chrétiens, pas chrétiens. Et voilà, il fait donc beaucoup de connaissances sur ce bateau, et alors il réfléchit, et il écrit, et il correspond. Voilà, donc tous ces voyages en bateau, à partir de la Chine, 1926-1946. Alors, souvenez-vous que la Chine, à ce moment-là, est en pleine ébullition politique. Hein. Première guerre civile révolutionnaire, 1926-1927, que Mao Tse-Tung perdra. Il a 31 ans à ce moment-là, Mao Tse-Tung, je crois, il sera éliminé du Parti communiste, puis il reviendra après. Enfin bon, c'est toute une lutte. Il prend une autre tactique alors, hein, c'est la longue marche et tout, et finalement il arrivera au pouvoir en 1949 contre donc, la mouvance nationaliste de Chiang Kai-shek. Et ben voilà, il assiste à tout ça. Hein. Alors il a déjà participé à la guerre, à la grande guerre 14-18. Maintenant il assiste à tous ces mouvements révolutionnaires en Chine. Donc voilà, il est toujours un peu aux premières loges, hein, des choses difficiles. Mais là-bas, eh bien, il a une trouvaille extraordinaire, c'est à Choucoutien, hein, les fouilles de Choucoutien qui mettent au jour le synanthrope, l'homme de Pékin, hein, l'homme préhistorique chinois. Et il parvient à faire avec d'autres la preuve que l'homme de Pékin est faber, ça veut dire il est ouvrier, hein, il maîtrise le feu et il utilise la pierre taillée. Donc, c'est considéré comme des signes d'humanisation. En 1937, il reçoit la médaille Mendel au congrès de Philadelphie. En 1940, il fonde à Pékin l'Institut de géobiologie. Voilà, il ne perd pas son temps, hein, même si à Paris, on n'en veut pas. Il passe quand même à Paris. Il a une correspondance avec Boulle et avec d'autres. En 1946, il rentre à Paris après 20 ans de Chine. Hein, 20 ans de Chine. Sur 74 ans, ça compte quand même. Hein. Et donc, toujours au milieu d'étrangers, donc il ne connaît pas la langue, il ne parle pas le chinois, mais bon, il parle anglais tout le temps. Hein. Français de temps en temps, bien sûr, mais surtout anglais, qu'il a appris Hastings et puis avec toutes ses lectures et tous ses voyages. Et il revient à Paris, il ne retournera plus en Chine, mais il ira à New York de 1950 à 1955, et c'est là qu'il mourra d'une crise cardiaque le jour de Pâques 1955. C'est de New York qu'il fera ses voyages en Afrique du Sud et acquérera la conviction de l'origine africaine de l'homme. En Afrique du Sud. Alors, ses œuvres. Donc, nous avons un géologue, paléontologue, qui commence à publier très tôt dans des revues scientifiques spécialisées des œuvres à caractère purement scientifique, dont notamment, par exemple, bien la bombe scientifique de l'homme de Pékin, le synanthrope. Il signe cet article avec un Américain, un Chinois et un Allemand. Voilà, ce sont les quatre savants qui ont vraiment dirigé les fouilles, et ça c'est une nouveauté dans le panorama paléontologique. Ces œuvres sont publiées, les œuvres purement scientifiques, mais les œuvres qui sont déjà un peu philosophiques, comme le phénomène humain, ça veut dire des réflexions qu'il fait sur l'évolution. Alors là, c'est pas reçu, c'est pas publiable, c'est pas publié, et surtout ses écrits spirituels ne sont pas publiés du tout. C'est interdit. En 1925, déjà, on lui a dit qu'il avait des idées hétérodoxes, et donc à partir de 1925, il ne peut plus enseigner, il ne peut plus que publier des choses scientifiques. Voilà. Or, en 1926-1927, il écrit « Le milieu divin ».« Le milieu divin ». C'est un très bel ouvrage spirituel dont je vous ai donné quelques textes. Il écrit ça à Tientsin, après l'épreuve justement de l'exil, hein, de l'expulsion de France. Eh bien, en 1920, je ne sais plus très bien, 28-29, là, les jésuites belges, du Muséum Lessianum, c'est l'ancêtre des éditions jésuites qui étaient ici il y a peu de temps, eh bien le père Charles, le père Levy, etc., lisent Le Milieu Divin et veulent le publier. Ils veulent le publier. Et il y a un échange de correspondance en disant « Oui, les critiques sont bonnes, les recenseurs sont favorables, etc. » Mais en dernière minute, il y a un recenseur de Rome qui s'oppose complètement. Et on ne peut pas passer outre cet avis qui semble pourtant minoritaire. Les jésuites belges, ben la Belgique a un peu aidé Teilhard, puisque c'est ici qu'il a rencontré Wong. C'est le Muséum Lessianum qui a fait une tentative de publication, mais ça n'a pas abouti. Mais ses œuvres, eh bien, beaucoup de gens savaient quand même que c'était un scientifique de haut niveau et qu'il avait des idées philosophiques et théologiques qu'il ne pouvait pas exprimer. Et donc, à sa mort, il y a tout un comité qui s'est mis en branle. Alors voilà, à la première page de la plupart de ses œuvres, eh bien, il y a tous les noms de ce comité. Je vous ai indiqué ici, hein, il y a un comité scientifique de, je ne sais pas combien de personnages, je vous l'ai dit, 34 scientifiques de haut niveau de toutes les disciplines. Et puis d'autres écrivains artistes, dont par exemple Malraux, Marroux, Senghor, Léopold Sédar Senghor, toutes sortes de personnes comme ça, hein, qui ne sont pas directement des paléontologues, mais qui sont des philosophes, qui sont des écrivains, qui ne sont pas toujours des croyants d'ailleurs, hein, se sont mis ensemble sous le patronage de la sœur du roi Léopold III, des Belges, hein, qui a épousé le dernier roi d'Italie. Et c'est sous ce haut patronage de Sa Majesté la Reine Marie-Josée que ses œuvres sont publiées. Donc 62 personnes appuient ce projet de publier toutes ses œuvres sans demander l'imprimatur ecclésiastique. Et c'est un capucin flamand, un Belge, hein, Max Wilders, qui prend la tête de ce projet et qui travaille comme un d'arrache-pied pour publier ces 13 volumes, hein, des œuvres complètes. Après, ce sera repris de manière plus fine, plus critique, mais voilà, c'est un premier grand publication, manifestation de la pensée de Teilhard. Alors pourquoi est-ce que à ce moment-là, Teilhard a eu tellement de succès? parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui se souviennent qu'en 1960, 70, 80, il y avait même des groupes de lecture, hein, de théâtre, des groupes chrétiens. Eh bien, je vois ce succès dans plusieurs raisons, hein, que explique bien de Lubac, la pensée religieuse du père Théard de Chardin. Ben, d'abord, c'est vrai qu'il y avait une injustice qui avait été commise, mais surtout, je crois, les chrétiens se posaient la question, est-ce qu'il faut croire ou non à l'évolutionnisme ? Ben, ils étaient quand même tentés d'y croire, mais on disait, non, c'est pas possible, c'est pas compatible avec votre foi. Alors ils cherchaient à savoir pourquoi et comment, et voyaient que Théard, pour lui, c'était compatible avec une mystique même, hein, une mystique chrétienne. Et donc, c'est un quelqu'un qui a fait avancer l'étude de l'évolutionnisme d'abord, qui a ôté aux athées, hein, je dirais, l'exclusivité de l'interprétation de l'évolutionnisme, qui au contraire a donné une interprétation chrétienne et même mystique, hein, de l'évolutionnisme. Donc au lieu de cet interdit qui empêchait de penser de manière moderne, tout à coup on a un évolutionnisme encore plus beau, hein, que celui des athées, que celui des agnostiques. Et donc c'était une vision novatrice, évidemment, hein, plus belle que celle qu'on avait jusque maintenant, et qui est aussi libératrice de ce carcan que l'Église officielle imposait à la pensée, non seulement sur l'évolutionnisme, mais aussi sur d'autres choses. Alors, sa pensée maintenant. Le Christ évoluteur. Alors, il a des expressions, évidemment, qu'on ne trouve pas fort dans l'Évangile, hein, le Christ évoluteur, non. Il s'appuie beaucoup sur saint Paul, les Colossiens, les Éphésiens. Et pour lui, il y a vraiment, hein, identité entre le Verbe éternel qui s'incarne et le Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie. Il est au début de la création, il est l'alpha et il est l'oméga, parce que c'est le Christ évoluteur qui sera là à la fin des temps et qui recueillera en lui, hein, toute l'évolution de l'univers. Christ est le cœur et la tête de l'univers. Il est l'oméga, il est le plérôme. Ce sont des mots qu'il aime beaucoup utiliser. Le plérôme, la plénitude. C'est tout à fait traditionnel, mais on voyait cette parousie, cette fin des temps, comme ben, on arrive au bout du rouleau, je dirais, ça s'arrête et puis on passe dans le Christ. Mais on se demandait pourquoi tout à coup le monde allait s'arrêter là et passer dans le Christ. Ici, on voit qu'il doit passer dans le Christ parce que c'est l'évolution, c'est un mouvement. Hein. Donc c'est une vision dynamique, je dirais, de la parousie et du Christ roi. C'est une lumière nouvelle jetée sur ce mystère de la fin des temps. L'univers lui-même est une christogenèse, finalement. Hein. L'univers lui-même, dans son histoire, incluant une cosmogenèse, une biogenèse, une anthropogenèse, une noogenèse, voilà toutes sortes de mots qu'il invente. C'est pas toujours lui qui les a inventés. C'est parfois d'autres scientifiques, hein, noogenèse par exemple, noosphère, il paraît que c'est un autre qui l'a inventé, bon, il l'a tout de suite repris, c'est dans une discussion qu'ils ont inventé ensemble ce mot, et Théard accentue la doctrine de Paul dans sa teneur vraiment concrète, matérielle, biologique, il est celui en qui toute chose subsiste, Colossiens 1, 17. Vous aurez vu sans doute dans la feuille de route que j'ai mis en marge quelques citations, de l'écriture, enfin de référence plutôt, il cite souvent en latin et sans dire d'où ça vient. Voilà, il souligne l'omniprésence divine, à la fois ontologique et personnaliste du Christ, premier-né de toute création, Colossiens 1, 15. Alors on dit ça, c'est panthéiste. C'est panthéiste, mais quand on dit que le Christ, en lui, tout a été créé, il est le premier-né, bon, c'est du panthéisme ou bien quoi ? Il a une interprétation, je dirais, qui s'appuie et qui concorde avec la science, mais il n'invente pas, hein, l'idée du Christ, tête de l'univers, en qui tout sera récapitulé, anakephalaiosis, hein, aussi un mot de saint Paul, et de l'Apocalypse aussi, je crois. Mais il confère à tout cela une signification également scientifique et également dynamique. Le Christ est le moteur, finalement, de l'évolution. Et cette évolution ne tient que par en haut, par le but vers lequel elle progresse. Donc la science débouche sur la science du Christ. Le gain évident de cette christologie est payé au prix d'autres difficultés, mais qui sont dues en partie au fixisme et à l'immobilisme de la tradition dogmatique. Pour Théard, en effet, ce sont les actes des apôtres. Hein. En Christ, nous vivons, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Acte 17, 25. C'est en lui que nous sommes, que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme disent certains de vos poètes, explique Paul à l'Aréopage. Nous sommes de sa race, nous sommes de la race des dieux. L'incarnation, à ce compte, est coextensif à toute la durée du monde, de l'univers. L'incarnation, c'est Jésus historique, bien sûr, à un moment donné, mais il s'incarne déjà dans cette matière qui devient vie, qui devient esprit, qui devient homme. Et il devient lui-même homme individuel, mais il est déjà en route. L'incarnation est déjà en route dans l'humanisation de tous les humains, individuellement. Et lui deviendra un individu de cette humanité. Et donc il y a comme une involution descendante de Dieu qui vient se combiner avec une évolution cosmique ascendante. Dieu descend dans le monde en même temps que le monde monte vers lui. La flèche de l'évolution, dit-il, est l'Église, comme corps du Christ, tête du corps du Christ. L'Église est le milieu divin par excellence, mais le monde entier, l'univers entier, est milieu divin, si on sait voir comment Dieu y agit. Le progrès n'est donc pas indéfini, il a une fin. Le Christ, à la fin des temps, se drapera organiquement de la majesté même de sa création, Christus amictus mundo, cette belle expression qui se trouve dans le premier texte que vous avez reçu, pages 49 et 50 du milieu divin. Le Christ amictus, ça veut dire recouvert, comme on met une écharpe, une étole, une toge, recouvert du monde. La méthode de Théard est-elle scientifique? Eh bien, la question est légitime, évidemment. Il a écrit trois types d'œuvres, strictement scientifiques. Bon, ben là, comme toutes les œuvres scientifiques, elles font évoluer, elles font avancer la science. Bon, ben maintenant, c'est un peu dépassé peut-être, on l'a précisé, etc. Mais enfin, voilà, tous les écrits de scientifiques sont des écrits datés. Bon, eh bien là, il a une excellente méthode scientifique, évidemment, reconnue par ses pairs. Il a une philosophie basée sur la science. Dans le phénomène humain, par exemple, il essaie de savoir qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est métaphysiquement que l'homme. Eh bien, est-ce que sa méthode est légitime? On lui a interdit aussi de publier le phénomène humain. C'est de la philosophie, c'est déjà trop proche de la théologie. La spiritualité basée sur l'expérience mystique de Théard. Théard a toujours eu une grande veine poétique et d'inspiration mystique. Je crois qu'il aspirait à la grâce mystique. Je ne sais pas s'il l'a eu, oui, poétiquement, mais pas du tout comme Simone Veil, par exemple, que nous avons vu la fois passée. Alors, la méthode légitime de l'hypothèse synthétisante, dit Gaston Isaïe. Alors, Gaston Isaïe, c'est quelqu'un que certains ont connu parmi nous. C'est un jésuite hyper critique. Logicien, très au courant de la science, avec lui, pas moyen de dire un truc de travers, il a tout de suite vu que votre discours ne tient pas, bon, donc c'est l'hypercritique. Mais il a lu Théard, bon, avec sympathie, mais aussi avec cet esprit hypercritique. Et alors, puisqu'on disait que Théard faisait des extrapolations exubérantes, échevelées, ben il dit mais non, pas du tout. C'est la méthode même des sciences naturelles, qui sont toutes inductives. Alors, ce n'est pas des extrapolations, ça veut dire avec trois cas, on parle de l'univers entier. Non, il a vu des milliers de faits. Sur ces 20 millions d'années là, de l'Éocène inférieur, il a vu des centaines de fossiles. Il les a tous examinés un par un. La finesse d'analyse, l'acuité du regard sur le fait individuel. Et puis, évidemment, cette puissance de synthèse. Eh bien, je vous ai mis en note, donc... Classiquement, on dit que la science est faite d'induction et de déduction, en tout cas les sciences empirico-formelles, pas les sciences formelles. Les sciences formelles, elles sortent de l'esprit, c'est tout déductif, d'accord? Mais les sciences empirico-formelles, donc physique, chimie, biologie, etc., on part des faits qu'on observe, on essaie de tirer quelques lois, puis on fait une hypothèse pour former une théorie. Cette théorie est hypothétique. Il faut maintenant la vérifier en essayant d'en faire comme le point de départ d'une déduction dont on va déduire des faits ou des expériences possibles, par exemple. Et cette théorie, eh bien, elle est à l'épreuve de l'expérience, des faits. Si les faits ne répondent pas à la théorie, ben, il faut changer la théorie, il faut l'affiner. Mais si jamais la théorie prévoit que l'expérience donnera tel résultat, on n'a jamais fait cette expérience, on essaie de la monter, et elle donne le résultat prévu par la théorie, un bon point pour la théorie, et voilà, cette théorie se solidifie. Il faut qu'elle soit falsifiable, hein, il ne suffit pas de donner des bons exemples, il faut aussi être capable d'inventer des expériences qui pourraient falsifier. Enfin, ils ne doivent pas falsifier, évidemment, hein, nécessairement. Mais si elle est infalsifiable, ce n'est pas une bonne théorie. Elle est tautologique à ce moment-là. Enfin, c'est une armature, hein, une armature scientifique, épistémologique. Eh bien, Gaston Isaïe, avec un œil très critique, nous dit que Théard utilise cette méthode de l'hypothèse synthétisante. Cette méthode est celle des sciences naturelles. Si on reproche à Théard d'agir comme ça, ben, il faut le reprocher à tous les paléontologues et à tous les biologistes. Hein. Alors évidemment, Théard a une grande quantité de faits nouveaux qu'il analyse. À cette époque-là, on n'avait pas autant de fossiles qu'on en a actuellement. Et il a vraiment participé à la multiplication de ces fossiles avec des techniques de fouilles, etc., et des réflexions pour savoir où il fallait aller pour trouver les bons endroits. Et donc, on n'imagine pas, le commun des mortels n'imagine pas le nombre de cas qu'il a examinés. Par exemple, revenant de tel voyage de Pékin, il a 49 caisses de pierre dans son bateau pour le musée de Paris. Marcelin Boule va être content. Hein. Donc, on va pouvoir examiner ces pierres hein, au microscope et tout ça. Il ramasse des pierres partout. Et donc, il a une grande puissance de synthèse, et surtout, il a une nouveauté dans son interprétation. Dans son hypothèse synthétisante, il a une nouveauté. Non seulement au niveau scientifique, ce qui est déjà extraordinaire et tout à fait légitime au niveau épistémologique, mais il a aussi une nouvelle interprétation au niveau d'une inspiration religieuse. Il fait bouger les frontières. Il donne de la force à ceux qui sentent le carcan du fixisme proposé. Il en donne une interprétation religieuse et même mystique. Et tout ça dans un style extraordinaire. Donc, évidemment, eh bien, voilà, ça a un certain succès. Mais cette méthode est légitime, dit Gaston Isaïe. Alors, je poursuis parce que Gaston Isaïe va plus loin en disant des choses comme celle-ci. L'univers n'est plus infini comme Pascal le croyait. Vous vous souvenez que Pascal était effrayé par l'infini. L'infini, 1, 2, 3, 4, on ne s'arrête jamais. Eh bien, le temps, c'est la même chose, en avant et en arrière, et l'espace, c'est la même chose, en avant et en arrière. Il était effrayé par l'infini du temps et de l'espace, Pascal. Eh bien, aujourd'hui, plus question de penser ces infinis-là. C'est différent. On a vraiment prouvé, semble-t-il, pour l'instant, nous savons depuis Einstein, que l'univers est fini. Il est fini, mais il est illimité. Donc on ne trouve pas de frontières, on n'arrive jamais au bord. Mais il est donc fini. C'est la théorie du Big Bang, évidemment, qui est la théorie standard maintenant, 14 ou 15 milliards d'années en arrière. L'univers est en expansion, avec un nombre de particules limité. Limité, ça veut dire beaucoup, mais pas infini. Pas infini. Eddie Newton, déjà, avait dit que, voilà, on pouvait compter le nombre de particules de l'univers. On pouvait peser le poids de l'univers. Ce sont des choses qu'on fait. Et donc Einstein a contribué à cela avec sa formule E égale mc carré, où justement l'énergie initiale se fossilise progressivement en matière, selon cette formule. Cette formule que semble-t-il, c'est une petite parenthèse que je fais, eh bien, l'intuition de cette relativité et de cette formule lui vient peut-être de son épouse Mileva Maric. une grande mathématicienne serbe qui fut sa première femme, hein, et qui était plus forte que lui en calcul, hein, lorsqu'ils étaient à l'école de Genève. Hein. Et voilà, il l'a épousée. Et cette Mileva Maric, bon, on est encore occupé un petit peu à chercher, à savoir pourquoi et comment ça s'est passé, mais vraiment, elle avait des intuitions mathématiques et physiques extraordinaires. Ce n'est pas elle, évidemment, qui a poursuivi la recherche, parce qu'elle a eu 36 autres problèmes, dus entre autres à Albert Einstein lui-même. Hein. Mais, donc voilà, l'univers est fini. Et combien a-t-il de particules? On peut le savoir. Et combien pèse-t-il? Je vais vous le dire. Il pèse 10 exposant 54 grammes. Voilà, il pèse 10 exposant 54 grammes. Donc vous mettez 10 et puis 54 zéros derrière. C'est le poids de l'univers. Vous vous dites, mais enfin, comment est-ce qu'on fait ça, etc. Bon, ben, moi, évidemment, ce n'est pas moi qui ai compté, hein. Mais il semble que, voilà, ce sont des choses qui sont admises en physique. Je vous donne ces chiffres, qui, j'espère, sont approximativement vrais. Mais Gaston Isaïe se sert donc de ce genre de raisonnement pour dire ceci. L'espace n'est plus infini. Mais il y a quand même quelque chose d'infini dans cette explosion, dans la manière dont cette explosion se déroule. Alors, est-ce que c'est du hasard? Ben, oui, c'est peut-être du hasard, mais Gaston Isaïe continue avec ses exposants, hein, et il dit, pour que l'état du monde soit tel qu'il est aujourd'hui, il faudrait que ces 10 exposant 54 grammes de matière, là, je ne sais pas quoi, qui était très dense au début, s'entrechoquent, je ne sais pas quoi, et donc il faudrait qu'il y ait 10 exposant 400 rencontres des toutes premières particules, etc., hein, pour arriver à ça. Et avec ça, on aurait une chance sur ces 10 exposant 400, hein, d'arriver à cette affaire-ci. Donc, bon. Mais dit-il, alors là, c'est assez extraordinaire, moi je ne sais pas si, comment il fait son calcul, mais une page d'un livre, voilà. Combien de chances y a-t-il que le hasard écrive cette page de livre? Vous donnez 26 lettres, hein, et vous mélangez ça dans un mix-up, hein, et ça doit devenir une page de ce livre. Eh bien, il y a une chance sur 10 exposant 5000 pour qu'on ait la page en français correct, hein, qui veuille dire quelque chose. Donc ça veut dire que le moindre objet de ce monde humain, spirituel, est infiniment plus improbable que le monde tel qu'il est maintenant, hein, à un niveau matériel. Donc, il en conclut, Isaïe, que ce n'est pas possible que le hasard explique l'état des choses actuelles. Il faut que l'intention, quelque part, s'introduise progressivement et que la finalité s'introduise progressivement pour que les choses, finalement, prennent la tournure qu'elles ont prise. Voilà donc, selon Isaïe, le hasard est statistiquement exclu, hein, comme cause possible de l'univers tel qu'il est actuellement. Il faut donc impliquer une idée d'intention et de finalité. De cela s'empare évidemment Théodore de Chardin, en disant que cet infini numérique extérieur, etc., est devenu un infini de complexification par enroulement de la matière sur elle-même. Alors bon, ce sont des formules, hein, mais la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est des particules qui n'explosent pas vers l'extérieur, mais qui se rassemblent pour, ensemble, former quelque chose d'intérieur qui se reflète lui-même et qui finit par être, ben, un vivant qui se protège, qui se conserve, qui se défend contre le milieu extérieur, qui se reproduit, etc. Donc il y a une certaine intériorité des choses à tous les niveaux, et cette intériorité devient de plus en plus complexe, évidemment, dans la vie et dans la vie des êtres supérieurs, et encore plus dans notre pensée, hein, dans notre cerveau. C'est un enroulement de matière où il y a un espèce d'infini qui jaillit d'un autre ordre immatériel qui est l'esprit. Alors sachez bien que votre cerveau, quel que soit votre quotient intellectuel, hein, est l'objet le plus complexe de l'univers. Actuellement, il n'y a aucun objet dans l'univers qui soit plus complexe qu'un cerveau humain. Vous dites une galaxie là-bas, ben, ça a l'air quand même un peu costaud, etc. Mais c'est hyper simple comme type d'organisation. Hein. Alors c'est hyper simple, bon, c'est déjà peut-être un peu compliqué, mais ça n'a rien à voir avec les je ne sais combien de dizaines de milliards de neurones que nous avons dans le cerveau et qui fonctionnent hein, pour produire une pensée avec une intentionnalité, etc. Et voilà, donc par enroulement et complexification, eh bien nous en arrivons à cet univers qui est guidé par une intentionnalité, par une finalité. Et nous avançons vers un univers de plus en plus infini au niveau immatériel, au niveau de l'esprit, jusqu'à faire apparaître la noosphère et finalement la parousie qui est le Christ, hein, qui va prendre sur lui tout cet univers matériel qui se sera complexifié pour produire l'esprit. Toute matière a un within, toute matière a un intérieur. Alors ça c'est du panthéisme, hein. Toute matière a une âme, même une pierre. Mais attention, bon, ça semble assez évident pour un être humain, un animal, une plante déjà un peu moins, mais enfin soit, une pierre. Une matière inerte. Mais elle n'est pas du tout inerte. Quand vous l'examinez, il y a plein de petits satellites qui tournent autour d'eux, qui se rassemblent, des trucs libres qui peuvent aller à gauche ou à droite. Si on ionise, ça va autrement, etc. La mécanique quantique nous montre que la matière elle-même eh bien, a des propriétés singulières qu'on ne domine pas, qu'on peut mesurer plus ou moins statistiquement, mais on ne sait pas pourquoi la matière se comporte comme ceci, ici ou là, avec la grande question de l'action à distance, etc. Enfin bon, donc, dit Gaston Isaïe, c'est de nos jours, hein, lui que je cite, eh bien non, dire que la matière a une intériorité, ben, c'est tout à fait cohérent avec la physique contemporaine. Et nous ne connaissons pas cette intériorité. Nous voyons un peu comment elle se comporte, mais pas toujours. La preuve, l'Internet a claqué tout à l'heure, hein, pendant 3 heures, elle m'a fait perdre beaucoup de temps. Hein. Voilà. Le Jésus évangélique est le Christ cosmique. L'immense enchantement du milieu divin doit toute sa valeur concrète au contact humano-divin qui s'est révélé dans l'épiphanie de Jésus. Jésus, homme et Dieu, verbe incarné, eh bien, est apparu. Épiphanie. Suprême réalité historique qui tout à coup concentre, enroule hein, l'omniprésence divine dans un être humain, une personne. Et cela nous enivre et rend inconsistants tous les rêves de la métaphysique et de la mystique païenne. Nous avons là hein, Dieu fait homme, l'un des éléments de l'univers qu'il a lui-même créé. Le Christ universel de Paul ne peut avoir de sens ni de prix à nos yeux que comme une expansion de ce Christ né de Marie et mort en croix. Et mort en croix. Un instant apparu parmi nous, le Messie ne s'est pas laissé toucher et voir que pour se perdre une fois encore plus lumineux, plus ineffable dans les profondeurs de l'avenir. C'est la diaphanie du Jésus historique dans le Christ cosmique. La diaphanie, sa transparence. Nous avons donc la suite, création, incarnation, eucharistie, parousie, etc. L'optimisme de Théard, eh bien, oui, d'accord. Il dit lui-même que intellectuellement, il est pessimiste, mais par volonté et désir, il veut être optimiste. Et nous allons lire le texte hein, sur l'horreur cosmique, parce que toute cette évolution, eh bien, c'est une immense machine qui broie beaucoup de choses hein, et qui nous broie nous-mêmes pour nous faire atteindre eh bien, la pureté, la diaphanité de l'esprit. Évaluation de Théard entre Blondel. Blondel aussi avait un panchristisme, mais un peu abstrait, hein, un peu philosophique, un peu, je ne sais pas comment dire, essentialiste, métaphysique ou quoi. Ici, on a un panchristisme bien plus concret et bien plus en lien avec le Jésus évangélique. est bien plus en lien avec le Jésus qui a souffert, hein, à la croix. Et donc, oui, on a un panchristisme qui intègre aussi quelque chose de Simone Veil. Hein. Simone Veil n'avait aucun panchristisme, hein, mais elle voyait un malheureux, là, le Christ malheureux, ben, ça c'était Dieu, hein, c'était évident pour elle, il n'y avait pas besoin de, hein, d'inclure le cosmos là-dedans, Dieu était là dans ce malheur. La pensée de Théard est inclassable. Je vous dis encore deux, trois éléments avant de lire le texte. Il n'était pas l'homme des conflits. À la lettre, dit Tilliette, il ne les voyait pas. On lui faisait des objections qu'il n'avait pas prises sur son monologue courtois. Il était dans sa vision, dans son lyrisme, voilà. Alors il avait tellement souffert d'avoir été éteint, tu, qu'il s'est dit, ben moi, je travaille, quoi. Hein. Je travaille, j'écris. Voilà, que voulez-vous faire? On me soupçonne, on me critique, je ne vais pas passer mon temps dans la polémique. Il était humble, il était modeste. Le père Bonnet dit, une grande audace, une grande hardiesse de pensée, présentée de manière très humble, très modeste. En effet, il a présenté un de ses mémoires à Blondel, qu'il a critiqué. Il a présenté plusieurs de ses textes à de Lubac, qui avait 15 ans de moins que lui, et qui lui a fait des objections, et il a corrigé, il a amélioré. C'est un penseur du plein, c'est un penseur de la convergence, même s'il y a la souffrance dans sa pensée, tandis que Blondel, eh bien, on pourrait aussi lui reprocher d'être un peu trop le philosophe du dépassement et du creux. Hein. Il y a le renoncement, il y a la mort à soi-même, beaucoup plus. Elle existe aussi chez Théard, mais voilà, d'une manière différente. Et son magnifique texte de la Messe sur le monde, si on le lit bien, eh bien, il est à la fois optimiste et pessimiste. Au sens où il y a quand même une place, hein, pour la souffrance. Alors, je prends le premier texte. Je passe le petit titre où il y a quelque chose d'un peu subtil. S'il est vrai, de par notre credo, que les âmes passent si étroitement dans le Christ et en Dieu, s'il est vrai que par les constatations les plus générales de l'analyse psychologique, que le sensible passe si vitalement dans les zones les plus spirituelles de nos âmes, donc psychologie et spiritualité, c'est aussi un des thèmes, hein, de Théard. Force nous aide de reconnaître que tout ne fait qu'un, dans le processus qui, du haut en bas, agite et dirige les éléments de l'univers. Merci. Et nous commençons à voir plus distinctement se lever sur notre monde intérieur le grand soleil du Christ roi, du Christ amictus mundo, du Christ universel. De proche en proche, de relais en relais, tout finit par se raccorder au centre suprême, in quo omnia constat, en quoi tout subsiste. Colossiens 1, 17. Les effluves émanées de ce centre n'agissent pas seulement dans les zones supérieures du monde, là où s'exercent les activités humaines, sous une forme distinctement surnaturelle et méritoire. Pour sauver et constituer ces énergies sublimes, la puissance du Verbe incarné s'irradie jusque dans la matière. Bon, c'est celui-là, je crois, celui-là où vous passez maintenant. Enfin, me semble-t-il. Enfin, peu importe. La matière, pour lui, n'est pas la matière brute. Hein. C'est toutes les choses concrètes, tout ce qui est consistant. Donc pour lui, un animal, c'est de la matière. Notre corps, c'est de la matière. Alors bon, les scolastiques parlent de materia prima et tout ça. Bon, ben c'est pas du tout de cette matière-là qu'ils parlent. Hein. Donc, la puissance du Verbe incarné descend jusqu'au fond le plus obscur des puissances inférieures. Et l'incarnation ne sera achevée que lorsque la part de substance élue que renferme tout objet, spiritualisée une première fois dans notre âme et une seconde fois avec nos âmes en Jésus, aura rejoint le centre définitif de sa complétion, de sa plénitude. Donc voilà, la matière doit se spiritualiser en moi et moi dans le Christ. Et c'est comme ça que le monde devient, eh bien, le corps du Christ. qui montera au ciel si ce n'est celui qui en est descendu pour remplir toute chose, dit-il là en latin en citant Éphésiens. Par notre collaboration qu'il suscite, le Christ se consomme, atteint sa plénitude, à partir de toute créature. Il est en nous, et par notre travail, il le dit souvent, à notre travail quotidien, concret, profane, soi-disant profane, qui est sacré. Et alors il cite souvent, l'ouvrier, le chercheur, l'artiste et la mère de famille. Voilà le travail concret qui est finalement l'œuvre des êtres humains pour composer le corps du Christ. C'est saint Paul qui nous le dit. Nous nous imaginons peut-être que la création est depuis longtemps finie. Erreur. Elle se poursuit de plus belle. Encore plus maintenant que lors de la formation du tableau de Mendeleïev, et dans les zones les plus élevées du monde, toute créature gémit en douleur d'enfantement, Romains 8. Et c'est à l'achevé que nous servons, même par le travail le plus humble de nos mains. Tels sont en définitive le sens et le prix de nos actes. Tous nos actes doivent être faits in Christo Jesu. Et alors, il a cette particularité de lier toujours Christo et Jésus. Il y en a beaucoup qui disent Christo, voilà, c'est un peu plus abstrait, ça peut être le Christ éternel, mais lui ajoute Jésus. Du Christ, le Verbe incarné en Jésus. Tels sont en définitive le sens et le prix de nos actes en vertu de l'interliaison matière, âme, Christ. Je spiritualise la matière dans mon âme et je mystifie, si j'ose dire, mon âme dans le Christ. Voilà. Quoi que nous fassions, et là de nouveau il cite 1 Corinthiens 10, alors ce n'est pas évident, mais comme souvent il dit, quoi que nous fassions, que nous mangions, que nous buvions, etc., nous le faisons dans le Christ pour le Christ. Donc c'est une courte citation qui fait sans hésitation allusion à 1 Corinthiens 10. Quoi que nous fassions, nous ramenons à Dieu une parcelle de l'être qu'il désire. Dieu désire toute parcelle de l'univers en lui. Eh bien, c'est nous qui la lui ramenons. Par chacune de nos œuvres, nous travaillons atomiquement, mais réellement, à construire le plérôme, c'est-à-dire à apporter au Christ un peu de son achèvement. Je prends maintenant l'autre partie. Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. Marc 9, 24. Ah, vous le savez vous-même, Seigneur, pour en avoir humainement porté l'angoisse. Jésus. Le monde, à certains jours, nous apparaît comme une chose effroyable, immense, aveugle, brutale. Il nous ballotte, nous entraîne, nous tue, sans faire attention. Héroïquement, on peut bien le dire, l'homme est arrivé à créer, parmi les grandes eaux froides et noires, une zone habitable, où il fait à peu près clair et chaud. Où les êtres ont un visage pour regarder, des mains pour adoucir, un cœur pour aimer. Mais que cette demeure est donc précaire. À chaque instant, par toutes les fentes, la grande chose horrible fait irruption. Celle dont nous nous forçons à oublier qu'elle est toujours là, séparée de nous par une simple cloison. Feu, peste, tempête, tremblement de terre, déchaînement de forces morales obscures, les guerres. Entraîne en un instant, sans égard, ce que nous avions péniblement construit et orné avec toute notre intelligence et notre cœur. Mon Dieu, puisqu'il m'est interdit, par ma dignité humaine, de fermer les yeux là-dessus, comme une bête ou un enfant, pour que je ne succombe pas à la tentation de maudire l'univers et celui qui l'a fait, faites que je l'adore en vous voyant caché en lui. La grande parole libératrice, Seigneur, la parole qui, tout à la fois révèle et opère, répétez-la moi, Seigneur. Hoc est corpus meum. C'est mon corps, cet univers, en gestation. Vraiment, la chose énorme et sombre, le fantôme, la tempête, si nous le voulons, c'est vous. C'est moi, n'ayez pas peur, dit Jésus aux disciples dans la tempête. Tout ce que nous éprouvons dans nos vies, tout ce qui vous a consterné vous-même au jardin de Gethsémani, ce ne sont au fond que les espèces ou apparences, la matière, d'un même sacrement. Croyons seulement, il insiste beaucoup sur la foi, hein. Croyons d'autant plus fort et plus désespérément que la réalité paraît plus menaçante et irréductible. Et alors, peu à peu, nous verrons se détendre, puis nous sourire, puis nous prendre en ses bras plus qu'humains, l'universelle horreur. Non, ce ne sont pas les rigides déterminismes de la matière et des grands nombres, les statistiques, là, les probabilités, hein. Ce sont les souples combinaisons de l'esprit qui donnent à l'univers sa consistance. L'immense hasard et l'immense cécité du monde ne sont qu'une illusion pour celui qui croit. La foi est la substance des choses. Hébreu un peu tronqué, hein, parce que c'est la substance des choses que l'on espère. Mais la foi est la substance des choses, oui, qui viennent. Alors la messe sur le monde, je vous le lis, et je crois qu'on voit souvent la beauté de ce texte, mais après avoir lu le précédent, je crois aussi qu'on y verra le labeur, le travail. Alors là, il a écrit ça en Mongolie, le jour de Pâques 1923. Puisque, une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes de l'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel. Je m'élèverai par-dessus les symboles, jusqu'à la pure majesté du réel. Et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Le soleil vient d'illuminer là-bas la frange extrême du premier Orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante de ses feux, la surface vivante de la terre s'éveille, frémit et recommence son effrayant labeur. Je placerai sur ma patelle, mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd'hui broyés. Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d'une âme largement ouverte à toutes les forces qui, dans un instant, vont s'élever de tous les points du globe et converger vers l'esprit. Voilà, c'est un très beau texte, magnifique, hein, évidemment, mais on sent, hein, la force, l'effort, l'horreur, comme il dit, hein, le prix que cette évolution exige pour vraiment arriver à donner au Christ son corps cosmique. Je vous remercie, voilà, ces 12 leçons sont achevées, nous allons arrêter le flux, puisque de flux il est question, et nous resterons ici quelques minutes là pour des questions si vous voulez.